Une création Magellan.
Comédien de rue, critique rock, ex-rédac chef de Rock Sound, auteur de 4 One Man Show, chroniqueur, radio, télé, présentateur de gala, mon invité semble avoir exercé dans tous les domaines de la parole. C'est un battleur, un orateur tout-terrain. Je reçois Thomas VDB. Bonjour Thomas VDB.
Bonjour Julien, merci de me recevoir.
Séquence 1. La figure de style. Anaphore, métaphore, jeu de mots, j'analyse une figure de style souvent utilisée par l'invité pour voir quel effet ça produit dans son discours. On écoute, si tu veux bien, 2 extraits dans lesquels on découvre un procédé rhétorique qui signe ta marque de fabrique.
L'actualité, c'est un mélange d'actualité de musique. Oh non. Mais quand tu fais 2 chroniques dans la semaine, au bout d'un moment, ça devient difficile de trouver des sujets. Oh oui.
Une actualisique de l'émission à laquelle tu participes qui s'appelle Aujourd'hui par Jupiter. Et maintenant, un autre exemple d'actualisique.
Tous avec François Fillon. François Fillon, il est excellent. Ok, des fois il a mal au dos, mais quand même il est excellent.
Donc actualisique, il y a déjà là un procédé linguistique qui est un mot-valise, qui est la contraction de actualité et de musique. Et il y a aussi un jingle chanté, c'est comme si c'était ton truc, ta figure de style, quelque chose qui t'identifie maintenant.
Est-ce que c'est quelque chose qui m'identifie, qui me représente ? J'ai remarqué que je m'amuse beaucoup à être drôle, ou en tout cas au moins à me faire rire.
C'est le nom qui identifie ta chronique d'abord ?
Oui, oui. Alors c'était pour avoir un nom au début, mais en réalité je ne parle pas de musique, il n'y a pas un lien toujours systématique avec la musique. Et des fois quand je ne parle pas du tout de musique, le seul prétexte du jingle chanté au début de la chronique donne l'illusion qu'effectivement c'est un rapport entre l'actualité et la musique. Maintenant, le jingle chanté... c'est parce que je me suis rendu compte que ça me faisait marrer. C'est toujours marrant de chanter, mais alors attention, de chanter mal. D'ailleurs, je me souvenais plus de cette intro pourrie que j'avais fait. L'actualité, c'est un mélange d'actualité et de musique. Et donc, essayer de... Enfin, imiter le mec qui s'applique en faisant avec des trucs qui sont de toute façon moisis, c'est assez rigolo.
C'est un travail de faire bien le mec qui fait mal.
Exactement. Je fais pas des jingles pour montrer à tous les auditeurs que je sais bien chanter et tout ça. Ça ne m'intéresse absolument pas. Le but, c'est d'être drôle, évidemment. De voir combien le mot actualisique a été presque démocratisé, ça me fait marrer parce que les gens, à chaque fois qu'ils m'en parlent, j'ai envie de leur dire, mais vous savez qu'il est moche ce mot que j'ai inventé quand même. Donc,
C'est génial quand un humoriste ou un artiste fait entrer un mot dans l'usage commun.
Tu parlais du mot valise, puisqu'effectivement, ouais. L'actualisation, c'est un mot valise. Je passe mon temps à en faire dans ma tête des mots valises. Donc si j'arrive quelque part, je fais bonjour, ça va, je fais bon va. Ah bon, un mélange de bonjour, ça va, ça permet de gagner un peu du temps. Et j'ai l'impression d'en entendre de plus en plus. Je pense que c'est une figure de style qui a pris de la place aujourd'hui.
Certainement. Par ailleurs, le détournement de chansons, c'est un truc à la mode depuis quelques années. Et il peut s'agir soit de détourner les paroles, comme tu le fais, soit de changer la musique en mode cover improbable, comme l'ont fait les Brigitte dans Ma Benz.
Laisse-moi zoom, zoom, zoom. Benz, Benz, Benz. Quand tu pointes ton bon pour un ding, ding, ding.
Ça t'évoque quoi ?
Ça m'évoque que c'est pas drôle. non, mais c'est très bien fait. Donc, si quelqu'un, à l'époque, je pense que quand ce morceau est sorti, les gens qui écoutaient la radio, qui allumaient ça, là, ils ont été surpris. Moi, j'adore la musique. J'adore écouter de la musique qui me fait vibrer, qui m'émeut et tout ça. C'est une chose d'écouter de la musique pour être ému, c'en est une autre. D'écouter de la musique pour faire rire ou de faire de la musique pour faire
mais
rire.
Mais là, elle voulait pas faire rire. Et Thomas Barbazan sur Radio Nova, il fait exactement la même chose avec DJ Chelou. Et là, c'est drôle.
C'est pas un hasard à chaque fois quand tu prends une musique d'un registre particulier et qui prend les textes d'un autre registre. En général, c'est comme quand tu mets 2 mots qui n'ont absolument rien à voir associés l'un à l'autre, tu vois.
Tu prends Seth Gecko et la Compagnie Créole.
Exactement. Et c'est comme ça que tu fabriques des superpositions un peu improbables et c'est comme ça que tu crées des univers un peu marrants.
Je te mets une patate de forain, une patate de forain, une patate de forain, une patate de forain.
Et pour poursuivre un tout petit peu sur Zizir et Zizik, pardon, pour poursuivre.
Parce que si on ne l'attendait pas du tout, pour continuer sur Zizir et Zizik.
Parce que c'est dans ton 3e spectacle, j'ai dit que tu avais fait 4 one-man shows et le 3e est consacré à Daft Punk. À un moment donné, tu dis...
ce qui me fait zizir, c'est de faire de la zizique.
Bah, ce qui me fait zizir, c'est de faire de la zizique, quoi.
Ouais. Je voudrais expliquer pourquoi
pardon,
c'est drôle.
Pardon, pardon. Ah bah vas-y, génial, vas-y.
En fait, il y a une double référence à Boris Vian, en avant la zizique et par ici les gros sous. C'était un pamphlet qu'il avait fait sur l'industrie musicale dans les années 50. Et à Rof, c'est le rap hardcore, ça fait zizir sur l'album La Fierté des Nôtres.
Désir, y'a tellement de choses qui font plaisir. Ça aurait été mieux si on pouvait choisir. Rof intouchable, ça fait zizir. On s'échappe, on a une chance, faut la saisir.
Et en même temps, tel que tu le dis, il y a ton côté ingénu. Il y a plein de choses qui se superposent en sous-texte de ça.
En réalité, la première fois que j'étais sur scène, ou enfin que j'ai eu l'idée de cette phrase, de dire « Ouais, moi, la zizique, ça fait bien zizir !» En réalité, je pense que bon, ça me faisait beaucoup rire de dire ça, parce qu'en fait, ça me faisait rire d'imaginer le personnage que j'allais jouer. Et c'est-à-dire que le personnage dans Thomas VDB chante Daft Punk, c'était un personnage hyper arrogant de gars qui prétendait arrêter l'humour pour devenir une espèce de chantre de la French Touch du jour au lendemain. Et donc, du coup, c'est assez amusant de jouer un personnage qui pense que c'est cool de dire cette phrase-là. La zizique, ça me fait bien zizir! Parce que c'est comme quand je disais régulièrement dans ce spectacle, à la fin d'un morceau, je regardais les gens, je faisais « Vive la zikmu !» Et les gens, mais personne dit des phrases comme « Vive la zikmu !» Tu vois, c'est vraiment des trucs, c'est vraiment la zik, déjà, ouais, c'est trop classe, la zik. J'aime bien jouer avec cette façon un peu enfantine, ingénue, tu disais, de parler. C'est qu'en fait, il y a toujours un truc qui est drôle, c'est quand les gens décident de s'approprier un nouveau mot de vocabulaire. Moi, en général, dès que j'apprends un nouveau mot, je le mets à toutes les sauces. Je le ressors tous les jours dans toutes les phrases et tout. En ce moment, je dis beaucoup juguler. Ben, ça permet de juguler toutes les problématiques. Et donc, voilà. Donc,
tu peux nous définir juguler ?
Aucune idée. Non, mais juguler, ça permet de canaliser, je pense, ouais, un truc comme ouais. Ça. J'aime bien comment il sonne, ce mot juguler.
Ça pourrait être un conseil aux auditeurs qui veulent apprendre à maîtriser la langue. Utiliser un mot.
Bah, surtout le mot juguler, surtout essentiellement ce mot-là, s'ils peuvent quand même.
Dès qu'il y a un nouveau mot, l'utiliser à toutes les sauces pour se l'approprier, en fait.
Alors, par contre, ce qui est un peu chaud, c'est quand tu te fais griller par un mec qui entend que tu l'utilises deux fois le même jour. Et tu vois, il dit, bah, tu l'as déjà dit ce matin, juguler. Ah merde, t'étais à côté de moi, fais chier.
Séquence 2. Les techniques de l'invité. Mon invité vous fait partager ses trucs, ses habitudes, ses techniques, en dévoilant son rapport à l'éloquence, bref, les clés de sa prise de parole.
C'est pourquoi, messieurs, dames, je vous prie de bien vouloir réserver une salle d'applaudissements pour celui que de Stockholm jusqu'à Johannesburg, de Los Angeles jusqu'à Cambrai. L'on surnomme le recordman professionnel, j'ai nommé Freddy Goldwolf. On y va, Freddy.
Là, on est dans ton duo de théâtre de rue avec Rodolphe Coutouis, que tu as rencontré à la Ligue d'impro de Touraine en 98, quand tu as commencé, en fait. Et vous avez créé un duo autour de ce personnage de théâtre de rue, Freddy Coutboul, dont toi, tu joues l'entraîneur, d'une certaine façon.
Exactement. Oui, c'est un spectacle de rue, comme tu dis. C'était un duo, en réalité, mais qui était vendu comme l'arrivée d'une star. Et donc, c'était un recordman qui venait battre différents records successivement pendant le spectacle. À chaque fois, c'était une succession de records, en réalité.
Et d'ailleurs, on a un extrait avec un record très particulier.
Freddy, une deuxième fois, cette fois-ci, c'est la bonne. Pour le record en finale de slip sur les mains aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ?
Encore !
Qu'est-ce qu'il a dit, Freddy ?
Encore !
Il a dit, Marco, Freddy, t'as plus tardé pour le grand nombre de l'année, t'as 3, 2, 1, c'est parti, champion, voilà.
Et donc là, on vient d'entendre le record du monde de saut de slip sans les mains.
De l'enfilage de slip sans les mains, s'il te plaît.
Encore mieux.
Non, mais soyons précis, quitte à raconter les vieux trucs pourris qu'on faisait. Bon, voilà, donc c'était vraiment des records complètement absurdes. Et c'était un spectacle, c'est la seule expérience en réalité de spectacle, le mot est moche, mais familial, que j'ai fait, c'est-à-dire tout public.
Ça, c'est le théâtre de rue. C'est une école, d'abord l'impro pour toi, et ensuite le théâtre de rue, parce qu'aujourd'hui, tu fais du stand-up. Alors, tu fais plein de choses, mais le stand-up, ça peut consister à répéter chaque soir le même texte en s'adressant aux spectateurs d'une façon qui feint un caractère improvisé. Genre improvisé, alors qu'en fait, c'est pas du tout improvisé.
On va faire comme font tous les humoristes pour chauffer un petit peu le fameux « ça va ?»
Ouais.
Voilà.
Dans le théâtre de rue, vous improvisez certaines parties réellement et vous vous adressez à tout le monde, pas à une communauté en particulier, aux jeunes, aux vieux.
Honnêtement, je pense que la part de l'impro dans le théâtre de rue et dans le stand-up, c'est la même.
Ah oui. Il y a plus d'interactions dans la rue, non ? que dans une salle.
Oui, mais bon, après, si quand tu fais un spectacle de rue, tu t'arrêtes à chaque fois qu'il y a un passant qui passe pour faire une impro, bon, tous les spectacles vont être que des impros sur les gens qui passent. Maintenant, effectivement, que ce soit en stand-up ou en rue, s'il se passe quelque chose qui va monopoliser l'attention du public dans le public, par exemple, s'il y a un spectateur qui se lève et qui se barre, en plein milieu du spectacle, je vais relever là-dessus, je vais parler au mec qui se barre. Je vais utiliser ce moment-là.
Comment ça va, mon truc ? Ça va bien ? Enlève tes mains de ton zizi quand tu me regardes, ça me stresse, hein ?
Après, on peut pas faire feu de tout bois constamment. Beaucoup d'années de théâtre de rue m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise en stand-up, ça c'est clair. Effectivement, je pense que le théâtre de rue a été pour moi un exercice vraiment béton avant d'attaquer le stand-up.
Alors là, il y a le travail sur la voix. La voix, c'est tu lâches pas ton public. Il y a une parodie de... Il y a plein de gens dont on va parler maintenant qui apparaissent en filigrane comme ça. Il y a Jacques Martin.
Notre troisième candidate, mademoiselle Sylvie, que je vous demande d'applaudir bien fort.
Je pense aussi à Jean-Claude Brialy quand il présente des galas comme ça de façon assez emphatique. Il y a un petit côté maître d'école et battleur de supermarché aussi quelque part.
En réalité, c'est marrant parce que je pense que la forme de Freddy Coup de Boule, la forme même du spectacle, était certainement un peu inspirée. Tu parlais de Brialy et de Jacques Martin, j'allais dire aussi de Interville. Ouais. Tu te souviens cette vieille émission de télé dans laquelle Guy Lux, Léon Zitrone et Simone Garnier se passaient le micro pour présenter successivement des épreuves qui ressemblaient beaucoup à des records de Freddy Coup de Boule, en fait. Donc, je suis complètement d'accord aussi avec le fait que mon personnage de Freddy Coup de Boule, c'est tête de gondole de supermarché. Il y a de la promo sur le saucisson, il y a de la promo sur les jambons blancs, on en profite. Hein, voilà, donc évidemment, cette façon de chanter, qui encore une fois, dans l'énergie, là, la façon que j'aurais de le faire, ça n'a rien à voir avec la façon que j'ai de faire du stand-up.
On pourrait donner des conseils aux gens qui veulent devenir battleurs de supermarché, il y en a peut-être parmi nous,
ou allez,
des gens qui veulent,
bouge, là,
qui veulent
bouge.
Animer des galas.
Et on parle de juguler surtout, on jugule.
Et à l'inverse, de quelqu'un qui veut se lancer dans le stand-up.
Le stand-up, en fait, tu choisis le personnage qui va dire tes blagues. Tu vois, moi, les blagues de mon spectacle, ouais. Bon chien chien, là, mon dernier stand-up, si je les fais en parlant comme ça et tout, ça va être insupportable. Parce qu'en réalité, tout ce texte est écrit pour qu'il colle le plus au personnage que je suis moi. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit différent dans la façon que j'ai de m'adresser au public quand je suis en stand-up de quand je suis en soirée avec des potes et tout. Et je dis, oh, attends, je vais raconter un truc qui m'est arrivé. Et
ça, c'est le principe du stand-up qui change avec le one-man show. Le one-man show plus traditionnel, on incarnait un personnage. Et le stand-up, on fait semblant de s'adresser à ses potes sans vraiment...
Exactement.
On prétend pas incarner un personnage. Mais en fait, on en incarne. Il y a une sorte de paradoxe du comédien.
En réalité, ouais, on en incarne un... Parce que le piège, ça peut être, par exemple, de sortir un tout petit peu de ce personnage. Le danger, c'est de surjouer. De surjouer soi-même, de surjouer, par exemple, la nonchalance, de surjouer... En fait, ce qui fait qu'un stand-up qui va être génial, c'est quand le comédien va dire ses blagues, dire son texte, en donnant exactement l'impression que c'est la première fois qu'il est dit. Mais c'est la spontanéité et la sincérité qui vont donner une impression de générosité au public.
Pour Bon Chien Chien, le dernier spectacle. D'ailleurs, ça me fait penser, réflexion un tout petit peu intello, à Gilles Deleuze qui théorise, alors, un philosophe, qui théorise le devenir...
Le premier à me dire que ça fait penser à Gilles Deleuze.
Le devenir animal, c'est un concept de Gilles Deleuze qui ensuite a été exporté et qui a permis à penser l'art contemporain et penser l'artiste aux aguets, l'écrivain aux aguets qui voit des lignes, des formes, des couleurs et qui invente un langage. On pourrait dire qu'on est un chien quand on est aux aguets et qu'on essaye de percevoir la réalité d'un point de vue décalé. C'est drôle que tu sois à côté d'un chien et que tu n'aies aucune réticence à t'assimiler d'une certaine façon à un chien.
Mais le bon chien-chien, dans ma tête, c'est moi. Si c'était un adjectif, bon chien-chien, c'est un adjectif qui me définirait moi. Moi, je suis clairement un labrador dans la vie. Enfin, tu vois, je suis plus labrador que pitbull, ça c'est sûr. Je suis quelqu'un d'assez facile dans la vie. Alors, je fais pas le malin en disant ça, en faisant le mec, hey, qui c'est qui est facile? Ben, c'est moi, les mecs. Tu vois, ça me joue des tours aussi. Je suis quelqu'un qui sait pas dire non. Donc...
C'est pour ça que t'as accepté de venir ici.
Non, mais c'est pour ça que j'accepte de tout faire. En fait, je dis oui un peu à tout le temps. Donc, le bon chien-chien, voilà, c'est moi. C'est un adjectif qui me définit moi. Alors, ben, pas que capillairement, parce qu'avec mes cheveux en bataille, les gens sont là, ouais, t'es coiffé comme un chien. Mais après, non, il y a vraiment un truc qui je pense, est quelque chose qui ressemble un peu à ma nature. Je suis clairement plus un chien qu'un chat, par exemple.
Donc là, c'est ton quatrième one-man show, et tu définis le bon chien-chien qui tu es, et la voix, quelle est la voix qu'il faut trouver pour dire ce texte.
Comme tu disais, c'est mon quatrième spectacle, et en réalité, c'est la première fois que je fais un spectacle avec lequel j'ai l'impression de parler avec autant de sincérité et de ne pas jouer en réalité. Parce que je joue un personnage qui est tellement proche de moi, en fait.
Donc il faut parler naturellement ?
Exactement. Mais il faut avoir un texte béton, sinon tu parles tout seul et t'emmerdes les gens. Tu vois,
donc en
réunion,
premier, ouais, c'est le texte, et ensuite tu te l'appropries tellement bien que tu arrives à le dire naturellement ?
En premier, c'est le texte quand même, c'est sûr. Ou alors, non, parce qu'en fait, moi je peux arriver sur scène et faire une impro et faire marrer les gens en faisant une impro. Mais par contre, si le lendemain je remonte devant un autre public et que j'essaie de rejouer exactement l'impro que j'ai fait la veille qui a fait marrer les gens, je vais pas les faire marrer parce que je vais être dans une mécanique de la reproduction. Et ça, c'est le danger. La mécanique de la production. C'est pour ça que plutôt que de faire des improvisations tous les soirs, il est recommandé quand on est comédien d'avoir un vrai texte. Et donc c'est pour ça que même quand tu incarnes ton propre personnage de stand-up, bah, t'as intérêt de muscler, d'avoir des vannes, d'avoir des blagues qui vont ressembler, qui vont être idéales pour ce personnage à dire, en fait.
Donc on reproduit pas une impro qu'on a déjà faite, mais on reproduit un texte en essayant de faire comme si on le disait pour la première
Exactement.
Fois.
Exactement. Et après, si, quand on a un texte qui est assez musclé, enfin de mon point de vue, il y a des vannes qui vont sortir des fois en impro pendant le spectacle.
Tu les notes.
Il est recommandé quand on fait du stand-up de s'enregistrer. Mais l'horrible difficulté quand tu t'enregistres, c'est de devoir te réécouter. Et quand t'as un spectacle d'une heure que tu joues tous les soirs et que par exemple tu te dis merde, dans celle d'hier que j'ai enregistrée, je me souviens qu'à un moment j'ai dit un truc super, c'était quoi? Et là, il faut réécouter une heure de ton propre spectacle où tu as envie de te mettre des claques dès que tu t'entends parler parce que tu sais, entendre sa propre voix, c'est insupportable.
Et est-ce que
tu
as pris des cours de théâtre?
Oui, j'ai pris des cours de théâtre. Même si on parlait du théâtre de rue tout à l'heure, pour moi, c'est clairement plus le théâtre de rue qui a été ma vraie formation de théâtre.
Il n'y a pas vraiment d'école de théâtre de rue?
Non, d'école de théâtre de rue, non, je crois pas que ça existe. Alors, aujourd'hui, le didgeridoo. Bon. Alors, vous avez vos savates? Tout le monde met ses savates.
Non, tu veux faire une école de cirque?
Eh, toi, t'as les cheveux propres. Va mettre tes cheveux dans la boue, s'il te plaît. j'ai fait le conservatoire il y a longtemps, à Tours, de théâtre. J'étais très fier d'y rentrer. Et je m'y suis très, très vite ennuyé. Mais parce que quand je suis arrivé au théâtre, donc je venais plutôt du... J'avais fait du café-théâtre, j'aimais faire le clown, quoi, tu vois. Alors, quand t'arrives au conservatoire et que tu fais le clown... Donc moi, la prof m'a dit, bon, vous allez bosser Britannicus. Donc j'avais dit, oui, mais si c'est ça, je m'en vais. Et donc, je suis parti au bout d'un an et demi.
Donc, ce qui a été le plus formateur pour toi, c'est de pratiquer du théâtre de rue. C'est-à-dire, on peut se lancer comme ça, on n'est pas obligé de faire des cours.
Ah bah oui, c'est ça l'avantage. En fait, il y a un autre, on parle de Freddy Coudboul, j'ai eu un autre spectacle solo en rue que j'ai un petit peu fait, qui s'appelait Boutros le Mage, qui était un personnage d'hypnotiseur qui perd ses pouvoirs en public, en fait. Donc c'était, le mec, il arrive, il est là, ah! Et donc j'avais tout un show hyper, hyper fort autour du fait que j'arrivais avec mes pouvoirs magiques, sauf que dès que je faisais monter des gens sur scène, naturellement, je suis absolument pas hypnotiseur, donc je faisais des efforts incroyables, voilà, tu m'appartiens, couche-toi, tu élèves-toi. Et donc je leur donnais des ordres ridicules, parce que personne m'obéissait, les gens, ils étaient pas du tout hypnotisés.
C'est toujours du même décalage qu'on parle, en fait, depuis le début. C'est du burlesque ou héroïcomique, on dit à la Sorbonne, tu prends un sujet grave et tu le traites de façon légère, ou tu prends un sujet léger ou tu le traites de façon grave.
Oui, exactement. Toujours, je pense que le comique naît beaucoup de là, donc du décalage entre le fond et la forme, en réalité. Du décalage entre le fond et la forme, c'est-à-dire les choses
entre
que
le
tu
sujet
dis et
que
la
tu
façon
traites,
que
ouais.
tu vas avoir de les dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui fera une oraison funèbre, tu vois, c'est triste, il est là, bah, il nous a quittés et tout. Mais t'imagines le même mec qui fait le même texte avec un grand sourire. Bah, on est là, mais tu vois, on se dit, mais ça... enfin, tu vois, il y a quelque chose d'absurde qui naîtrait de ça, je pense.
Le dernier spectacle est mis en scène par Kader Aoun. Quel est le travail qu'il a fait, j'imagine, pour t'aider à dire le delivering, comme on dit en américain, le rythme, les silences, la voix et cette question de capter l'auditoire?
Ben, Kader a été déterminant dans le fait de me faire passer du battleur qu'on écoutait tout à l'heure,
ouais.
qui était encore très présent dans les premiers spectacles que j'ai fait en rock et en roll et tout ça. C'était quand je m'écoute parler, si je revois un extrait de ce spectacle-là, j'ai l'impression de parler comme un conférencier. J'étais très proche du débit que j'avais dans Freddy Coudboul.
Où il y a quand même un second degré. Hein, on est
où
pas...
il y a un second degré naturellement, mais du coup qui se perdait un peu des fois quand je le faisais dans mon spectacle sur le rock, parce qu'on se disait, tiens, mais... Il a l'air très sérieux quand il parle comme ça, alors qu'en fait, bon, il y avait des conneries dans le spectacle partout. Mais il m'est pas venu à l'idée tout de suite que je gagnerais beaucoup à enlever tout ça, tu vois, à désaggraver le ton.
Pardon ? désaggravé.
Ouais, de moins ouais, grave, quoi.
C'est pas mal. Ouais. Tu viens de faire un néologisme intéressant.
Poétique. Ah, mais moi, je suis venu pour ça, hein, à la base. Tu vois,
j'ai pas encore créé le.
J'ai fait une liste de mots, fallait que j'arrive à caser. Rodomontade, désaggravé, jugulé.
Non, mais ça existe.
Ben, je pense que c'est important de juguler, la rodomontade, au niveau du désaggravage.
Du désaggravement, je pense.
Désaggravement. Non, mais. Et non, mais ce que tu me parlais de Kader Aoun, Kader a été déterminant dans le fait de me dire « Détends-toi, fais comme si tu parlais à tes... Dis-toi que tu parles à tes potes. » Ben, ça t'aide à trouver un petit peu mieux les sujets dont tu veux parler, en fait. Parce que tu te dis « Avec quoi je ferai marrer mes potes ?» Et ben voilà, c'est avec ces mêmes choses que je vais essayer de faire marrer le public.
Il faut rappeler donc que tu étais critique rock et que tu as été rédacteur en chef d'un magazine assez important. En fait, tu as 10 000 casquettes différentes.
C'est intéressant d'entendre un mec qui fait ça dans un truc sur l'art, sur l'éloquence. Le mec, c'est marrant de faire un podcast sur l'éloquence. Tu sais, ça te met la pression. Tu dis, putain, ça tombe un moment, je vais mal faire une liaison. Je vais me faire pourrir la gueule. Les gens, ah, ils ne savent pas parler. Bon. Oui, non, en fait, je vois pas ça tant comme des casquettes que comme des envies que j'ai eues dans ma vie. Quand j'étais jeune, j'ai eu ce rêve qui m'a tenu longtemps, qui était de travailler dans un magazine de rock. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir l'accomplir entre 19 et 25 ans. Entre là-dedans, j'étais rédac chef à 23 ans. Dès que je me suis lassé de ça, j'ai pu me barrer du magazine en me disant « Bon, maintenant je sais ce que je veux faire, je veux me consacrer pour de bon à la comédie et tout ça. »
En tant que spécialiste de la musique, quel est ton avis sur la mode actuelle de l'autotune ? En fait, ça fait plusieurs années qu'on est dans l'autotune. Peut-être avant que tu répondes, on pourrait écouter un extrait assez intéressant.
De Toto, il est chez lui. Tout à coup, son père, il lui demande: et Toto, peux-tu aller m'acheter de la bière? Toto, il part avec une bouteille vide.
Ça, c'était en 2013. C'était donc, je l'ai commencé en janvier 2013, ce spectacle. Thomas VDB chante Daft Punk. Alors effectivement, donc c'était on m'entend chanter une blague de Toto à l'autotune, au vocodeur, je sais pas exactement
bien
comment c'était vendu. Mais en réalité, j'ai toujours pas vraiment compris l'autotune. Alors PNL, j'ai découvert qu'il y a des trucs qui me touchent beaucoup de PNL, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils sont connus. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu plus donné leur chance à PNL qu'à beaucoup de trucs de rap autotuné. Moi, j'aime les jolies voix, j'aime les harmonies et tout dans la musique. Alors, ça fait un peu réac de dire ça, hein, donc c'est un peu moche, mais bon. C'est vrai qu'en fait, c'est un peu bizarre pour moi, c'est un peu de la musique de Nono le petit robot. Enfin, tu vois, c'est « T'es l'histoire !» Enfin, tu vois, c'est bizarre de... Alors, je sais pas d'où ça vient. Vraiment, je suis pas le mieux placé pour parler de la grande histoire
T'étais
de l'autotune.
T'étais bien placé pour parler de rock. Tout à l'heure, on parlera de rock ou pas rock, qui était une question que tu posais dans ton premier spectacle. Est-ce que tu peux déjà me dire pourquoi les groupes français, ils chantent en anglais ?
Pourquoi les groupes français
chantent en
anglais ? Ils
ont peur d'affronter la langue française.
Alors, probablement, parce que déjà... Regarde, je vais te répondre à ma place. Moi, j'étais chanteur d'un groupe de rock quand j'avais 16 ans.
Il s'appelait comment ?
Il s'appelait Libido.
Wow.
Et crois bien que si tu m'avais pas posé la question, j'aurais été ravi de pas te répondre. Non, alors tiens, donc quand j'étais ado, donc j'étais pendant un an ou deux, j'étais chanteur d'un groupe qui s'appelait Libido. Il y avait des compos et donc j'avais écrit des paroles en anglais. Pourquoi j'avais écrit des paroles en anglais et pas en français ? Je trouve que je suis un peu, je trouve que le sens des mots, le sens, en fait, j'ai pas besoin de comprendre aussi bien les paroles quand j'écoute une chanson. Alors sauf si le texte est magnifique ou sauf si le texte est voilà est très imagé et tout, mais la 80% des textes de chansons françaises que j'entends, en fait, pour moi, c'est une histoire avec de la musique derrière. Mmh. Et donc, j'ai pas envie
de. Ça, c'est l'histoire de la chanson à texte.
Exactement.
Ou c'est le texte qui est illustré par la musique.
Exactement. Moi, j'aime mieux. J'écoute que de la musique qui est définie par le son. C'est-à-dire.
C'est le cas de l'autotune de PNL.
PNL, des fois, il faut que je repasse 5 fois sur une phrase pour comprendre ce qu'il a dit dans sa phrase.
Patatata, je connais le million, mais je chante toujours pas. La 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 la.
Mais je préfère ça. En réalité, je préfère ne pas me prendre le sens de plein fouet. Moi, j'adore écouter... Par exemple, j'adore écouter de la musique brésilienne. J'adore la musique brésilienne. Je ne comprends rien à ce qu'ils disent.
C'est de la modestie, alors.
Est-ce que c'est de la modestie ?
C'est de la modestie de la part des chanteurs français de ne pas nous imposer leur éventuelle médiocrité d'écriture.
Je pense. Exactement.
Et
je pense que c'est un peu de la modestie.
C'est pas très courageux non plus.
Ouais, mais c'est plus sympa pour tout le monde.
Okay.
Parce qu'il y a quand même... Ouais,
me fais changer d'avis un peu.
Mais non, mais en fait, en réalité, moi j'adore, j'ai beaucoup de groupes que j'écoute où les mecs ils racontent que quand ils écrivent un morceau, ils font d'abord, ils font des... Et donc, le mec, il va se mettre à chanter. Et en fait, ensuite, il va... Par exemple, je prends le cas d'un groupe que j'adore.
C'est pas du air guitare, ce que tu es en train de faire.
C'est de la très, très mauvaise air guitare.
Quand les mecs, ils font pas de...
4 secondes. Là, il y a 4 secondes pendant lesquelles ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il a fait, là? J'ai fait... C'était nul, horriblement nul. Bon, mais en fait, Spoon, qui est un groupe américain que j'adore, le mec, il chante en yaourt d'abord. Et ensuite, il écrit un texte qui ressemble, dont les sons ressemble au yaourt qu'il a fait, qui est le plus approprié au morceau. Ça, ça ressemble à la musique que j'aime. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que le texte est musical. Et c'est marrant parce que je parlais ça avec, avec une nana avec qui je travaille. Elle me disait, oui, mais à ce moment-là, les livres... Elle me dit, les livres, tu comprends? Je dis, mais ça n'a rien à voir.
Elle a l'air cool.
Même, ouais. Exactement, elle a l'air relou. Et en fait, je dis, mais ça n'a rien à voir. Un livre, tu le lis une fois. Une chanson, c'est pas la première. Une chanson, tu l'écoutes pas une fois, comme un film, tu le regardes une fois, ou un livre, tu le regardes une fois. Une chanson, il faut que tu l'écoutes plein de fois avant que tu te fabriques un univers qui correspond à cette chanson. Tu vois, que tu trouves tes repères dans cette chanson. Il faut que tu l'écoutes 3, 4, 5 fois, tu vois. Et donc, il est normal que quand tu lis un livre, t'aies besoin que le sens soit clair et limpide. Moi, la musique, j'ai pas du tout besoin de sens quand j'écoute de la musique.
Quel conseil tu donnes à quelqu'un qui se lance dans la musique ou qui veut faire de la musique, est-ce qu'il faut le faire en français, en anglais ?
Je n'ai aucune idée du conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la musique, sinon que s'il veut en vivre, lui dire bon courage.
Mais tu as donné une méthode à l'instant d'écriture qui est assez intéressante. C'est d'abord écrire en yaourt, écrire pour que le son soit fondu dans la musique. Il y a une musicalité des mots et trouver le sens dans un second temps.
C'est vraiment un truc qui, pour moi, est élémentaire de faire ça. C'est-à-dire que avant de s'assurer du fond de ce que tu veux dire, bah, t'assurer que la forme qu'il va avoir soit artistique, esthétique, quoi.
C'est élémentaire.
Il y a des mots, mots que tu peux pas mettre dans des chansons. Il y a des mots, bah, je sais pas, rodomontade. Ça, là, qu'est-ce qui me fait chier?
Ça, tu mets dans les
rodomontade. Oh, il change de disque tout de suite, tu vois.
Ah oui, parce que là, sinon, ce serait un décalage humoristique dont on parlait. C'est pas forcément volontaire quand tu fais du rock.
Bah, si je chante rodomontade, on va être là, tiens, on dirait, exactement, c'est encore une fois le on va être là, tiens, c'est un mec, on dirait qu'il veut faire de la musique et en même temps me montrer qu'il connaît le mot rodomontade.
Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des trous de mémoire sur scène?
Ah, c'est marrant, j'en ai eu un, ça m'arrive très rarement, et ça m'est arrivé il y a 3 mois, alors que c'est un spectacle que je joue depuis longtemps, mais les gens l'ont pas vu, les gens l'ont pas capté, en fait. Genre, à un moment, ils ont même cru que ça faisait partie du spectacle, en réalité. Non, mais là, j'étais au milieu du spectacle, et à un moment, j'étais à la fin d'un bloc, et donc j'étais, alors que le spectacle, il est rodé, tu vois, je le connais par cœur, et là, à un moment, je suis là. Et donc, je me dis, merde, putain, de quoi je dois... En fait, tu parles et tu fais marrer les gens depuis une demi-heure et tout, puis d'un seul coup, pop, tu dis plus rien. Et donc là, je regarde les gens et je dis, putain, mais j'ai un trou, là. Et donc, je dis aux gens, mais attends, j'ai un trou. Et en fait, ça dure 10 secondes. Et je dis, mais je sais plus. Et donc, les gens alors, se marrent un peu parce qu'ils se disent, est-ce que c'est écrit comme ça, en fait? Est-ce que c'est une blague qu'il est en train de nous faire? Et en fait, c'est reparti. Et donc, à la fin, les gens, je ne pensais plus qu'à ça. J'étais là, putain, j'ai eu un trou. Et tous les gens, ils étaient là, on l'a déjà oublié. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils n'ont pas accordé tant d'importance que ça au fait que j'ai eu un trou pendant 5 secondes.
Et quand tu as un trou, en fait, la meilleure parade, c'est d'admettre ça et de dire, oui, j'ai un trou.
Oui, mais tu as intérêt d'être bon en impro derrière.
Merci pour cette
anecdote. Anecdote, je le barre pas, il est assez connu, le mot, hein. Je le laisse. Hein.
On passe à la troisième séquence, l'atelier oratoire.
Séquence 3. L'atelier oratoire. Et maintenant, on entre à proprement parler dans l'atelier oratoire. Je soumets mon invité à des exercices qui révèlent ce potentiel rhétorique qu'on porte tous en nous.
Première question, ton nom, en fait, VDB. D'abord, pourquoi est-ce que tu as choisi de raccourcir ce Vandenberg, dont je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un nom néerlandais qui signifie « venant de la montagne », l'équivalent du Dumont français, hein, t'aurais pu être Thomas Dumont.
Ouais. Et Thomas de la VDB. Montagne, c'est fou de se dire que c'est un nom effectivement hollandais, et que tu te dis « mais de quelle montagne parlait-il exactement d'ailleurs ?» À un moment, quand j'étais journaliste, je collectionnais les enveloppes qui arrivaient avec les fautes d'orthographe sur mon nom, et je crois que j'en avais une trentaine... Mais donc voilà, en fait, Vandenberg, c'est un nom qu'on fait beaucoup répéter et chercher un truc qui soit plus rapide, plus percutant que ça, quoi, tout simplement.
Il y a un autre humoriste qui s'appelle VDB, il s'appelle Yann VDB.
Je l'ai appris un jour, évidemment. J'étais là, waouh, merde, si on a, si y a un embouteillage au niveau des noms de famille chez les comiques, ça va être compliqué.
Il doit pas être content parce que maintenant, c'est Thomas VDB qu'on connaît mieux.
Ben ouais, effectivement, si j'étais à sa place, je serais pas très content. C'est comme s'il y avait un comique qui arrivait aujourd'hui qui disait « Salut, je m'appelle Stéphane Coluche !» Et donc, moi, j'ai décidé de venir vous faire marrer. On est là, oui, mais non, il faut changer de nom, Joe, là.
Et alors, je saisis l'occasion de ces trois lettres qui forment un sigle. Et le sigle est dans l'air du temps. Toi, tu t'appelles VDB depuis quelques temps.
Ah bon, c'est dans l'air du temps,
on vient de parler
sigle.
PNL. Bah,
ouais.
PNL, SCH,
les
noms de groupe.
Ouais, mais je sais pas, quand j'étais petit, j'allais à l'école et je passais toujours devant un truc d'assurance qui s'appelait UAP. Et donc, j'étais petit, donc pour moi, ça a toujours existé, l'UNICEF, l'ONU et tout. Donc, je sais pas si... Alors, chez les comiques ou quoi, est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui? J'en sais rien, franchement.
Et alors, jingle, on a parlé au début de tes jingles chantés, ce que tu fais dans Actualizic, mais aussi dans ce troisième spectacle où tu fais des jingles genre « c'est la teuf, tu m'étonnes, ouais !» Là, l'émission, elle s'appelle Flow, l'atelier oratoire, on est chez Magellan, je sais pas, tu peux pas faire un jingle.
Hey, Flo, attends
Ah ouais, ce serait un mec.
Vive le Flo! Eh ben attends. Et le flot, sur le flot, navigue sur le flot. Bon, après, je pense qu'il y a énormément de pourri à faire. Et alors, appelez-moi, je pourrais vous aider.
Ouais, c'est gentil. En plus, il faut vraiment faire le truc pourri, mais que ce soit bien fait de telle
bah oui,
sorte.
Mais c'est pas dur. En fait, tu vois, je parle comme ça, et dès que je fais le débile, je parle un peu. Je donne l'impression de parler à un mec qui est dans la pièce à côté. En fait, c'est juste.
Tu
ça.
Parles plus fort. En
eh
fait.
Ouais, c'est ça, ouais. Le mec, comme s'il était faussement engagé.
Attardé aussi.
Un peu attardé quand même. Hein, on peut
un peu
mots,
sourd.
Hein. Un peu... c'est ça.
Est-ce que t'as un dicton préféré, un proverbe, une phrase qui t'accompagne, ou un détournement? De...
Bah, vive la zic, sinon c'est la teuf. Non, alors c'est pas un dicton, mais je dis dans la vie,
ouais.
Je dis beaucoup, hop, et je pense que ça, c'est un truc de mec qui branle rien dans la vie. Alors je sais pas, je branle rien, tu vois, mais en fait j'adore rien faire, c'est vraiment ma passion. Alors ma vie est une quête de temps pour rien foutre, mais vraiment, donc les gens sont là, faut travailler, j'adore le travail, je suis calmez-vous avec le travail, vraiment je pense qu'il faut se faire exorciser pour arrêter de penser au travail, toute la valeur travail, mais calmez-vous, on s'assoit dans un hamac et on peut dormir un peu aussi, tu vois, bon. Mais en réalité, comme je suis toujours en surface par rapport aux choses et tout...
Et hop.
Voilà, je dis hop. Hop, ça. C'est un peu comme, tu sais, il y avait une blague qui était beaucoup, les gens me disaient il y a longtemps, ils disaient bon, ben, ça c'est fait.
Ça c'est fait. Oh, ça c'est fait.
Et ben moi, il y a le côté hop, me donne, à chaque fois je dis hop. Tu sais, vraiment, je peux poser mon mug sur la table, je fais hop. Et donc, ça me donne l'impression que j'ai fait un truc de plus dans ma journée. Eh ben, je prends le pari de mes journées. Moi, je peux dire que je suis quand même bien occupé, tu vois, juste parce
c'est
que j'ai posé mon mug sur la table.
C'est une ponctuation pour signifier que tu as accompli une action.
Exactement. Voilà, donc,
et que tu passes à autre chose.
Tu me demandais si j'avais un dicton dans la vie. Je trouve que hop, comme dicton, c'est un peu light. Je crois que c'est Confucius qui a dit hop hein, en premier, il faut le savoir. Hein.
On s'est vu en 2007, c'était pour première.fr lors de ton premier spectacle. Et je t'avais fait une interview en reprenant cette question que tu posais. C'était rock ou pas rock. Ouais. Et donc, on va écouter ça.
Drucker, plutôt pas rock, hein, puisque tu me poses la question. Hein, si on compare par exemple, je ne sais pas, le guitariste d'ACDC, qui s'appelle Angus Young, avec Michel Drucker, voilà, hein, Michel Drucker, je lui dis, tiens, va voir là-bas le jazz, et puis Jean-Louis Aubert, allez vous mettre là-bas, allez parler entre vous. Hein, voilà, Angus Young et rock. Michel Drucker, plutôt peu rock.
Alors, c'était moi qui étais responsable.
Tu vois la façon de parler que j'ai là, j'ai envie de me mettre des coups de pied dans la gueule, mon pote, mais des coups de pied dans la gueule. Je m'insupporte quand je m'entends parler comme ça. Bon, écoute, oui, très bien. Alors moi, je vais te dire une bonne chose. Je dis, oui, mais moi, je vais te dire un truc, c'est que tu vas te taire, surtout. Tu vas te taire, VDB. Non, mais c'est à l'époque où, en fait, c'était un peu le gimmick de mon spectacle. Comme j'avais tout un sketch sur ce qui était rock et ce qui n'était pas rock. Alors, j'ai peu coupé aux interviews que je faisais après. On me disait, alors ça, c'est rock ou pas rock? C'est vraiment une question, j'en pouvais plus qu'on me demande.
Et voilà, je me doutais bien que c'était pas du tout original. Mais toi qui as fait des interviews de rockers, déjà, qu'est-ce que serait l'équivalent de rock et pas rock aujourd'hui? Puisque rock, on ne dit pas de quelque chose que c'est rock aujourd'hui.
Non,
ou alors
voilà,
on est vieux.
Vraiment, ouais, c'est vraiment Johnny. rock, c'est quoi le truc
swag ou pas swag?
Stylé ou pas stylé? Bah ouais, enfin ouais. Ouais.
Ça,
je
c'est
sais pas,
peut-être.
Qui a cette préoccupation aujourd'hui de savoir si un
c'est
truc
pas,
est swag
c'est pas
ou
ça
pas
qu'il
swag.
Faut faire quand on fait une interview.
Reprendre le gimmick du spectacle pour le faire, pour que le comique refasse ses vannes. Ouais. Et alors ça, c'est rock ou pas rock? Par exemple, Jean-Louis Aubert et Michel Drucker, rock ou pas rock? Oh bah écoute, je veux dire un truc, Michel Drucker, je suis mais ferme ta gueule, VDB, tu vas te prendre un coup de pied dans la gueule, vraiment, je te le dis.
Donc, question bon usage maintenant, puisque je reprends une fois encore le second spectacle dont on n'a pas encore parlé, qui était intéressant, où il est question de savoir si on dit en Avignon ou à Avignon. Et là, c'est ta copine que tu cites qui est un peu pédante et qui dit t'as rien compris, c'est pas comme ça.
En fait, oui. Donc, il paraît qu'il faut dire en Avignon et pas à Avignon. Mais quand tu dis, par exemple, je vais à Avignon, et quelqu'un qui va te couper la parole pour dire on dit pas à Avignon, on dit en Avignon. Ah oui, d'accord, mais toi. Alors ça, c'est vraiment une forme de personnage, de gens qui la ramènent. C'est les gens qui la ramènent.
Et qui ont tort,
la tomate, c'est pas un légume, c'est un fruit. Mais ferme ta gueule, vraiment, on s'en fout. Et donc, mais en fait, en général, c'est la façon que les gens ont d'amener. Je sais un truc, je le sais, ça. Ça, je le sais, je vais te le dire. La capitale de l'Australie, c'est pas Sydney, hein, c'est Canberra. Ah bah oui, je le sais. Et donc t'es là, mais avant. Et donc les gens, des fois qui viennent, ça m'inspire énormément. Les gens qui veulent la ramener, je vais te dire un truc, c'est pas précis, Les gens qui la ramènent un peu de façon inutile, ça m'inspire. Et donc voilà, en fait, je me moquais, je pense, de cette nana qui m'a dit, on dit pas Avignon, on dit en Avignon. Mais...
Dont on se rend compte que souvent ils ont tort. C'est comme la controverse sur autant pour moi ou autant pour moi TEMPS.
Oui, oui.
AUTANT, on peut dire les deux si on cherche les origines des mots, si on fait de la lexicographie. En ce qui concerne Avignon, c'est un usage vieilli. En fait, normalement, il faut dire à Avignon,
ouais.
Parce que en, c'est pour pas faire l'hiatus, pour pas qu'il y ait A
oui,
et
en,
A.
Ah, oui,
mais
oui,
c'est
d'accord.
Pas le cas en français, c'était le cas en italien, en occitan. Et ça renvoie à une époque où c'était des pays. C'était un pays, c'était le comtat venaissin et c'était des villes fortifiées. Ouais. Mais par exemple, toi, t'es né où?
En Abbeville. Je suis né dans la Somme, à Abbeville, et donc jamais il m'est venu en tête de dire non, on dit en Abbeville, s'il te plaît. Non, mais ça me fait penser à autant pour moi, en fait, oui, je serais que autant c'est AU, plus loin TEMPS, mais en fait, non, parce que si tu dis, tu veux, qui veut de la salade de tomate, tiens, je t'en ai mis ça, et si tu dis, autant pour moi, c'est AUTANT, alors arrêtez de m'emmerder. C'est vraiment l'émission pour les gens qui ont le goût du mot. Ah bah si vous aimez les lots, les consonnes, les voyelles, on va se régaler toute l'après-midi.
C'est les chiffres et les lettres quoi.
C'est les chiffres et les lettres l'émission.
C'est gentil. Attends. On va terminer, on va conclure en ressaisissant un peu tout ce qu'on a évoqué. Un conseil pour les journalistes qui veulent se lancer.
Alors un conseil élémentaire, c'est savoir qui tu viens rencontrer. Ça semble élémentaire, mais pour les années de journaliste que j'ai fait il y a longtemps, des fois j'arrivais, je savais pas du tout qui y avait en face de moi.
Un conseil pour les futurs humoristes.
D'écrire. Pour les futurs comédiens ou humoristes, je pense, c'est d'écrire, vraiment beaucoup écrire.
Pour ceux qui veulent faire des chroniques à la radio ou à la télé, comme tu fais.
Est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire ça? Parce que c'est hyper chronophage, en fait. Je passe un temps dingue à devoir trouver des idées et tout. Alors oui, après, ils sont là, mais c'est génial, ça te permet de travailler l'écriture et tout. C'est là, j'ai envie de dormir. Tu vois, et donc, il y a quand même... Je souhaite à personne de viser... De rêver d'être chroniqueur.
Un conseil pour présenter un gala, ça peut arriver à pas mal de gens.
De toujours parler au public. Il faut que toujours on ait la conscience du public, on est toujours en train de s'adresser au public.
Et enfin, toi qui as fait toi-même des émissions audio, podcast, un conseil pour ceux qui veulent faire ça.
De bien penser à appuyer sur enregistrer au début de l'émission.
Mais je pense que ça n'est pas arrivé aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas VDB.
Cool, merci Julien.
Et hop, on en connaît désormais un peu plus sur Thomas VDB, cet homme capable de parler en toutes circonstances ou la figure du battleur par excellence.